Alors là, dans 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, et puis ce soir, ça va être une étude, je crois, quand même, somme toute, assez simple. Je ne voudrais pas dire bref, parce que quand un pasteur dit que ça qui va être bref, généralement, ce n'est pas une prophétie qui se concrétise tout le temps, donc je vais garder le mot bref sous réserve. Mais la semaine passée, on avait commencé le chapitre 2. Nous avions remarqué, la semaine passée, au verset 1, 5 obstacles à la parole. C'est-à-dire 5 choses que, si elles sont dans nos vies, elles vont nous empêcher de recevoir la parole. Mais si, comme le verset nous dit, elles sont rejetées de notre vie, ça va nous mettre en position pour recevoir la parole de Dieu. Je vais relire les versets 1 jusqu'à 3. 1 Pierre 2, 1 à 3. « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Maintenant, dans plusieurs traductions, ou différentes éditions, peut-être de la seconde, ça va dire de désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. L'idée là, ça dépend de quel texte grec les choses ont été traduites, mais je ne crois pas que la doctrine principale change, même si c'est certain qu'il peut y avoir une version qui est plus exacte que l'autre. Mais on voit au verset 1 ici, premièrement, la malice. Alors, on avait vu que si dans ma vie, je veux mettre d'autres personnes dans une situation de souffrance, que ce soit par la colère que j'entretiens ou par une rancune quelconque, tant que je suis dans cet état-là, ça va être difficile de recevoir la parole. En fait, ça va éteindre mon désir de recevoir la parole. Donc, rejeter toute malice. Ensuite, on avait vu également qu'on doit rejeter la ruse. La ruse, c'est de vouloir tromper ou trahir les autres, de faire preuve de ruse, c'est-à-dire qu'on veut naviguer les situations de la vie afin de leur faire du mal. Ensuite, il y avait la dissimulation, ça c'est de l'hypocrisie. Donc, on veut paraître bien, mais sans pour autant marcher avec le Seigneur. Puis on avait vu que c'est une liste qui sonne tellement mauvais qu'on peut se dire jamais les chrétiens ne seraient comme ça. Pourtant, le mot malice revenait plusieurs fois dans le Nouveau Testament, toujours dans le contexte de chrétiens dans l'Église locale. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible que des chrétiens soient à ce point en différant les uns avec les autres qu'ils veuillent aller jusque-là pour faire du mal. Ensuite, la quatrième chose, c'était l'envie. Et parfois, si on se présente dans une assemblée ou si on la vie chrétienne avec envie, c'est-à-dire que peut-être on regarde le poste ou les responsabilités confiées à un autre, puis on les envie, ça peut nous mettre dans une position où vraiment la parole de Dieu ne nous pénètre plus. Ou encore, peut-être que on est jaloux du fait qu'ils ont plus d'attention ou autre, et on commence à voir les autres comme des compétiteurs. L'effet que ça a sur nous, il y en a plusieurs, mais un, c'est que ça nous empêche d'être comme ce que le verset 2 va nous demander, puis de recevoir la parole. La cinquième et dernière chose dans le verset, c'était « et toute médisance ». Maintenant, on avait vu que la médisance, c'est de parler contre quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement de dire des faussetés. Peut-être que ce qu'on dit est véridique, mais on parle pour leur faire mal paraître. On parle contre eux. Plutôt que de leur parler à eux pour se réconcilier, on parle contre eux. Donc, 5 choses que si elles sont dans nos vies, elles vont nous vacciner contre le ministère de la parole. Maintenant, il dit « rejetant ». Donc, l'état dans lequel on veut être, c'est de rejeter ces 5 choses-là. Rejetant ces 5 choses-là, il dit au verset 2 « désirer » comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Donc, de la parole de Dieu, afin qu'on puisse croître. Puis, on voit ici au verset 2 une image de celui qui veut la parole. La plupart des gens, probablement ici, plusieurs d'entre nous, on sait ce que ça veut dire que d'avoir un bébé qui pleure à la maison, n'est-ce pas? Maintenant, pour les mamans, ne levez pas la main, mais est-ce que c'est déjà arrivé que vous étiez épuisé, fatigué et votre bébé ne cessait de pleurer quand même? Je me souviens quand on était à l'hôpital, après que Mélissa donnait naissance à Aiden, une infirmière est entrée dans la salle, puis elle s'est assise avec nous, puis elle nous a donné un petit dépliant pour dire « si jamais vous êtes tellement épuisé en tant que parent, que vous êtes complètement exaspéré, il ne faut jamais brasser le bébé ». Ben oui, on le sait, là. Bien, il y a ce numéro, vous pouvez faire ci. Puis là, il nous donne des ressources d'aide pour les parents qui sont complètement juste à bout. Et puis, Mélissa, elle avait le désavantage d'être mariée à un homme qui peut dormir à travers une attaque nucléaire. Okay? Moi, même si une armée nous attaquait, là, je ne me réveillerais pas. Là. Okay? Mélissa peut me dire, est-ce que tu as entendu tous les véhicules d'urgence qu'il y avait chez le voisin pendant la nuit? Non, on n'a rien entendu, moi. Donc, vous pouvez imaginer, avec un papa comme ça, la pression que ça peut mettre sur maman quand le bébé pleure, n'est-ce pas? Mais la seule chose qui me réveille, c'est les coudes. C'est la seule chose qui peut fonctionner. Mais sinon, papa va dormir. Mais on comprend, mettant l'humour de côté, là, on comprend que lorsqu'un bébé a faim, il te le fait savoir. Il ne va pas arrêter. Tu ne peux pas dire, hey, OK, je vais, écoute, là. On va te nourrir dans 30 minutes. Peux-tu arrêter de pleurer? OK, papa. Non, là, il continue. Tant il a faim, il le désire, et tu pourras, même toi, en tant que parent, tu ne pourras pas te concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Et puis, ils font connaître leur faim. Ils sont déterminés à la satisfaire. Mais je veux remarquer ici que ça ne dit pas « Vous qui êtes des enfants nouveau-nés, désirez le lait. » C'est pas ça que ça dit. Ça parle à tous les chrétiens. On comprend que quelqu'un qui est nouveau dans la foi a besoin d'apprendre à connaître la parole de Dieu. Ça, on peut comprendre. C'est pour ça que dans l'Église, tu vas avoir une classe comme celle qu'on fait une couple de fois par année, qu'on appelle la classe prochain pas. Quelqu'un qui vient juste de recevoir Jésus comme son sauveur peut prendre les premiers pas. Quelqu'un qui doit suivre le Seigneur dans les eaux du baptême, ou quelqu'un qui remplissait l'espace. On comprend qu'il y a des gens qui ont besoin de... Mais ce que ça nous dit ici, ça parle à tous les chrétiens. Ça dit, vous, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole. Ça va pour quelqu'un qui est sauvé depuis 6 mois, mais mettez-vous dans les chaussures de quelqu'un que ça fait 50 ans là, qu'il lit la Bible. Soyons francs. Là. Tu peux arriver à un point dans ta vie chrétienne où tu dis, je l'ai toute lue. Moi, je sais que je ne suis pas un super héros chrétien. Là, je suis un homme fait de chair avec tous mes défauts. C'est très rare que j'entends une prédication, un enseignement, puis je me dis, waouh, j'ai jamais entendu ça. À peu près jamais. Peu importe le livre dans lequel la permet, M. Franco sera dans le même bateau, plusieurs personnes ici ce soir. Honnêtement, là, il n'y a pas un passage que le pasteur pourrait ouvrir, puis vous diriez, ah, j'ai jamais entendu. Puis, ça peut devenir un peu vieux jeu. Ça peut devenir monotone, mais c'est quoi le commandement de Dieu ici? Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Ça, c'est un verset qui s'adresse à tous les chrétiens. Et c'est à nous de prendre les moyens nécessaires pour désirer cette parole-là. Maintenant, le verset 1 nous donne le gros de la recette. Si tu rejettes ce qui est mauvais dans ta vie, tu vas avoir faim pour ce qui est bon. Okay? L'exemple est classique, peut-être surutilisé, mais il est clair, donc je vais l'employer. Si Mélissa m'appelle, elle dit, chérie, elle dit, je viens de faire un tel repas, puis elle me décrit le repas, puis je sais que c'est un repas qui est bon, était fait avec amour, et il est nutritif et tout, mais quand, partant pour la maison, j'arrête en cours de route sur le bord de l'autoroute 13 au McDonald's, puis j'arrive au service au volant, puis je dis, je vais prendre un Big Mac avec une grosse poutine. Arrivé à la maison, Mélissa a placé la table, elle a fait un souper. Est-ce que j'ai faim? Non. Pourquoi je n'ai pas faim? Parce que j'ai rempli mon estomac avec quelque chose que je n'aurais pas dû consommer, n'est-ce pas? Tandis que si je garde mon appétit, arrivé à la maison, puis qu'elle met le souper qu'elle a fait sur la table, je vais le manger et j'ai faim, puis j'en redemande. Mais lorsque la Bible dit « désirer comme des enfants nous voulaient de lait spirituel », ce n'est pas une question de « oh, il faut que je trouve une manière de vouloir la Bible ». Pour avoir faim, il faut juste que tu t'empêches de manger ce que tu ne devrais pas manger. C'est assez simple. Puis des fois, je crois que la raison pour laquelle nous n'avons pas faim pour la Bible, c'est parce qu'on a mangé plein d'autres choses. Aujourd'hui, nos appareils, nos téléphones, là, ce sont des restaurants spirituels ou intellectuels. Je ne dis pas qu'ils servent de la bonne nourriture, mais tu remplis ton esprit. Les écrans, quels qu'ils soient, mais je ne veux pas juste déblatérer sur les écrans, mais si tu as rempli ton esprit de toutes sortes de concepts puis d'idées, ça peut être du sport, ça peut être des films, ça peut être les nouvelles, ça peut être d'autres lectures, ça peut être des vidéos TikTok, ça peut être n'importe quoi. Mais si tu as rempli ton esprit, tu n'auras pas faim. Tu sais, la semaine passée, on a amené les adolescents à Barrie pour la conférence jeunesse. Puis on a fait un règlement assez radical pour le voyage. Laissez vos téléphones à la maison. Savez-vous pourquoi on a fait ça? Bien, il y avait plusieurs raisons, mais en voici une. Parce qu'on voulait que lorsque le prédicateur allait dire aux jeunes, prenez vos Bibles et cherchez, on voulait que les jeunes aient faim. Parce que s'ils ont passé la journée ou les heures avant l'Église à remplir leur esprit ou leur intelligence d'autres choses, c'est certain qu'arrivé à l'heure du repas, ils n'auront pas faim. Mais ce qui est bon pour eux est bon pour moi. Parfois, j'arrive, puis j'ouvre ma Bible, et soyons francs, je n'ai pas faim. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mangé. Je n'ai pas mangé ce que je devrais manger. Mais mon esprit, mes pensées, mes sentiments et tout sont rassasiés par de la malbouffe, par autre chose. Il dit, rejetant donc plein de choses au verset 1, ensuite il dit, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Si vous voulez qu'un bébé ait faim, c'est pas compliqué, là. Ça veut juste à ne pas les nourrir. Mais je ne dis pas de ne pas nourrir les enfants, il ne faut pas mal me comprendre, là. Mais si vous ne nourrissez pas l'enfant, il va avoir faim. S'il n'a pas faim, il y a un problème médical, il faut aller à l'hôpital. S'il ne pleure pas pour manger. Mais c'est naturel, la faim. La faim, ce n'est pas quelque chose qu'on provoque. La faim, ce n'est pas quelque chose qu'on dit, « Bon, ben, je vais m'exercer à avoir faim. Je vais me forcer à avoir faim. » Non, la faim, c'est quelque chose qui se produit naturellement dans l'absence de quelque chose d'autre. Et la faim spirituelle, elle vient naturellement aussi. Mais je peux crever la faim si je mange autre chose, si je ne mange pas aux heures de repas, si je ne mange pas ce que je devrais. Mais ici, ça parle à tous les croyants. Désirer, comme des enfants nouveau-nés. Ça, c'est une image d'intensité. Ici, ça c'est pas que ce verset-là s'adresse seulement à ceux qui sont nouvellement sauvés. Non, ça s'adresse à tout le monde. Mais il prend l'image d'enfants nouveau-nés pour montrer à quel point on devrait vouloir la parole. Maintenant, c'est très simple ce soir. Si vous ne voulez pas la parole de Dieu, c'est parce que vous êtes rassasié d'autres choses. Ce n'est pas compliqué. Généralement, en préparant l'étude, je cherchais des manières de le compliquer parce que je me disais en moi-même, je ne peux pas juste me lever et leur dire ça, c'est trop simple. Mais peut-être c'est mieux de le laisser simple, justement. Parce que parfois, on ne veut pas la Bible parce qu'on a lu autre chose ou parce qu'on a regardé autre chose. Parce qu'on a écouté autre chose, puis on en a trop écouté, on en a trop regardé, puis on arrive, puis en lisant la Bible, on se dit, Maintenant, le verset ne veut pas qu'on crie comme un enfant, qu'on se plaigne comme un enfant, mais il veut qu'on soit déterminé, puis qu'on ait une ferme résolution d'être nourri par la parole. Et remarquez, il y a au moins deux qualificatifs ici pour la parole de Dieu. Premièrement, ça dit le lait spirituel. Le mot qui est traduit spirituel, c'est le mot logikos, qui parle de logique. Mais qui parle aussi de quelque chose qui vient naturellement ou qui va de soi. Donc, il dit le lait qui va de soi, il est traduit spirituel ici, c'est-à-dire des choses qui sont des enseignements qui sont spirituels et qui sont en accord avec l'esprit. Si vous avez YouTube, tout le monde là, c'est juste à aller dessus, on peut trouver une panoplie d'enseignements. Chrétiens ne sont pas tous spirituels. Ils ne découlent pas tous de la parole de Dieu, par exemple. Parfois, la personne peut dire que quelque chose vient de Dieu, mais honnêtement, c'est leur avis, c'est leur opinion. Parfois, c'est hors contexte. Je parlais avec quelqu'un dans l'église récemment, une conversation constructive ou positive, puis on parlait de on parlait du danger de prendre des histoires de l'Ancien Testament pour y trouver des doctrines. Puis le point de la conversation, c'était que Dieu nous a donné certains livres dans la Bible remplis de doctrines. Puis ensuite, il nous a donné des histoires qui vont illustrer ou démontrer ces doctrines-là. Mais ça va faire attention de ne pas juste prendre une histoire dans la Bible et lui faire dire ce que tu veux. J'avais entendu quelqu'un dire que autant Josué ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours, on devrait faire le tour de notre ville pendant 7 jours, puis spirituellement, les murs de la ville vont tomber. Mais non. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit qu'on doit marcher autour d'une ville pour faire tomber ses murs. Mais non, ça sonne poétique, ça sonne bien, ça frappe l'imaginaire, ça peut créer une émotion chez les gens, mais ce n'est pas le lait spirituel. C'est un exemple que j'ai souvent employé. Un poster, j'avais vu à la librairie chrétienne, où tu vois un évangéliste en colère qui avait son doigt et qui disait « Montagne, qui es-tu devant Zorobabel? » Là, ta montagne à toi, ça peut être tes problèmes financiers, ça peut être un mariage, ça peut être une difficulté professionnelle, mais Dieu va enlever ta montagne, comme il l'a fait devant Zorobabel. Non. Tu ne peux pas juste prendre quelque chose que tu as à Zorobabel, donner un second sens, puis l'appliquer à ta vie. Puis on fait souvent ça, des fois, sans le réaliser. Même Jérémie 29, 11, tiens. Je connais les projets que j'ai sur toi, dit l'Éternel. Bon, il parle à Israël. Il est en train de dire à Israël, alors que Jérusalem est en train d'être dévastée par Babylone, je ne t'ai pas oublié. Puis même après votre captivité, vous aurez un avenir. Il n'est pas en train de dire ça à Éric Léveillé en 2024, là. Donc, je ne peux pas aller au casino, gambler ma maison, la perdre, appeler Mélissa et dire, chérie, j'ai perdu la maison au casino, mais faites-en pas, Mélissa, chérie. Ça dit dans Jérémie 29, 11 qu'il a des projets pour nous. Non, tu ne peux pas faire ça. Parce que le verset a un contexte, il est adressé à des gens, tu ne peux pas juste le prendre de tort. Où est-ce que je m'en vais avec ça? C'est que quand ça dit désirer le lait spirituel et pur, tu dois désirer l'enseignement puis la parole de Dieu tel que Dieu nous l'a donné. Pas tel que des hommes veulent le twister pour faire des prédications qui sonnent bien. Mais on doit s'assurer que tout ce qu'on consomme est en accord avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Marquez, le lait spirituel est pur. Combien de choses est-ce qu'on mange aujourd'hui qui sont vraiment pures? Est-ce que les bananes qu'on achète, à moins de les acheter bio, puis encore là, sont-elles pures? Non. Daniel et moi, on était épatés. Quand on est arrivé à Lomé, Kossi nous avait donné des fruits, puis à chaque fois que je me déplace au Togo, Côte d'Ivoire aussi, je m'aperçois que les fruits que je mange à Montréal, ce n'est pas la même affaire. Il y a une pureté, il y a une fraîcheur qu'on ne trouve pas ici, du moins dans ces fruits-là. De la même manière, lorsque je reçois la parole, je veux qu'elle soit organique, telle que Dieu l'a donnée. Je veux pas des pesticides spirituels, je veux pas du chimique, je veux pas les idées du pasteur, je veux pas les idées des hommes, je veux pas la philosophie humaine. Je veux la parole de Dieu telle qu'il l'a donnée. Il dit ici, désirez le lait spirituel et pur de la parole. Les temps ont changé, mais je me souviens quand j'étais enfant, ça c'était avant Dollarama, là, ça c'était à l'époque, on avait à Boucherville, on avait un magasin qui s'appelait l'Empire du dollar. C'était le premier magasin à 1$ que j'avais vu. C'était vraiment à 1$, là. C'est pas comme aujourd'hui où c'est 5,25, 4,25. C'était 1$. Tout dans le magasin était 1$. Le dentifrice était 1$. Maintenant, souvent, on recevait des avertissements. N'achetez pas votre dentifrice à l'Empire du dollar parce qu'ils ont mis tout plein de produits chimiques là-dedans. Et là, les gens avaient peur d'acheter des choses comestibles là. Peut-être avec raison aussi. Pourquoi? Parce que les gens comprenaient que ce n'était pas pur. Je ne dis pas que le reste est pur, mais dans ce cas-là, il y avait vraiment un danger. Mais lorsque vous recevez de l'enseignement, il faut chercher pas ce qui frappe l'imaginaire, pas ce qui a été mélangé avec les philosophies du monde, mais le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, ou encore que vous croissiez pour le salut. Encore, si votre traduction dit « pour le salut », ça ne veut pas dire que c'est en apprenant la parole de Dieu qu'on est sauvé. Le mot « salut » dans la Bible, il faut toujours le définir par son contexte. Okay? Lorsque vous venez à Jésus pour le pardon des péchés, vous êtes sauvé de la pénalité du péché. Okay? Jésus a pris votre pénalité. Maintenant, un autre sens du mot « salut » dans un autre contexte, c'est qu'on est progressivement sauvé de la puissance du péché. Il y a de moins en moins de pouvoir sur nous. On pêche de moins en moins. Ça, on appelle ça la sanctification. Mais le jour vient où lorsque Jésus va revenir, on va être délivré de la présence même du péché. Le jour de notre salut, quand on en parle dans ce sens-là, c'est le jour où on va aller dans un monde où le péché n'existe plus. On va être sauvé de sa présence. Donc, il faut toujours prendre le mot « salut » dans le Nouveau Testament, dans la Bible, puis voir dans quel contexte se trouve ce mot-là. Donc, si dans votre traduction, ça dit « afin que vous croissiez pour le salut », ça ne veut pas dire qu'on croit dans le but de recevoir le pardon des péchés. Non. Mais on est en croissance pour une de deux choses. Soit afin que le péché ait de moins en moins d'emprise sur nous, qu'on soit de plus en plus saint, ou en attente du jour où nous serons dans la présence de Jésus sans aucun péché. Mais on voit cette image de celui qui veut la parole. Il veut, vraiment, il est comme un enfant. Puis ensuite, on voit également le résultat à la fin du verset 2, qui est « afin que vous croissiez par lui ». Il y a un pasteur que j'ai entendu prêcher la semaine passée à la conférence jeunesse, puis je l'avais entendu à Faithway il y a deux semaines avant aussi, quand Hélène et moi, on est allés à la conférence là-bas, et puis il était aux deux places. Puis en lui parlant, il me disait, tu sais, il dit, moi, je n'ai pas des messages spéciaux pour les conférences. Ce que je prêche dans les conférences, c'est la même chose que je prêche à notre église le dimanche. Et oui, je vais être franc, ces messages sont moins divertissants que d'autres. Peut-être moins, quand je dis mémorables, ces messages sont excellents. Mais il fait moins d'appel à l'émotion. Mais ces messages sont bibliques. Et vous savez, des fois, tu peux entendre un message qui est franchement plus ou moins enraciné dans le texte. Peut-être que le pasteur a raconté une histoire qui t'a fait pleurer. Peut-être que son style, son énergie, son entregent, peu importe, ont fait que le message était mémorable. Mais, au bout du compte, là, c'est pas de ça. Ça va des fois, OK. Dieu peut se servir de ça aussi. Mais ce qu'on veut, c'est le lait spirituel et pur. Et quand je m'assois pour préparer un message, il ne faut pas que je me dise « comment est-ce que je vais faire pour que ce message-là soit tellement le fun à écouter, puis tellement divertissant, puis tellement mémorable que dans 6 mois, les gens vont encore s'en rappeler. » Ce n'est pas le but. Le but, c'est qu'à chaque fois qu'on s'assemble en église, qu'on reçoive un repas qui nous fait grandir. Peut-être que le message, on va oublier les 3 points que le pasteur avait, peut-être qu'on va oublier les illustrations, peut-être qu'on va même, gloire à Dieu, oublier qui l'a prêché. Ça, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on a reçu quelque chose qui nous fait grandir. Vous aviez sans doute un repas préféré en grandissant, peut-être quelque chose que votre mère faisait, peut-être un repas que, encore aujourd'hui, que vous aimez particulièrement manger. Mais on comprend qu'on ne peut pas toujours, ou peut-être qu'il y a un repas même de la malbouffe, que des fois, là, vous vous permettez de le manger. C'est, honnêtement, je vais l'admettre, j'aime, si vous voulez me faire plaisir, là. Faites-le pas trop souvent, s'il vous plaît, parce que... Mais si vous m'achetez un smoked meat medium avec une poutine on the side, puis un Coke Zero, là, vous allez me faire plaisir. OK? Un smoked meat de chez Schwartz, là, je vous donne des points extra en plus. Mais comprenez que si je mangeais un smoked meat de chez Schwartz avec une poutine à tous les repas, là, ça serait pas bien, là. Maintenant, une fois de temps en temps, ça fait plaisir. On le fait pour le plaisir de la chose, pour des raisons X, Y, Z. Moi, j'ai un restaurant à Montréal qui s'appelle Green Spot. Mélissa va rire, là. J'aime ce restaurant-là. Pourquoi? Même quand on habitait à Toronto, pour revenir à Montréal, on arrêtait au Green Spot. Maintenant, le Green Spot, là, si je vous amenais là, souper, là, vous seriez insulté. Où est-ce qu'il nous a amenés? Mais vous savez, quand j'étais enfant, mon père, il faisait des rapports d'impôts, puis on arrêtait toujours au Green Spot. Fait que, puis quand on allait voir des matchs au Forum, là, je sais que je me vieillis, là, mais on allait au Forum voir des matchs de hockey, mon père m'amenait au Green Spot. Puis le Green Spot, pour moi, j'associe ça avec papa, puis moi puis papa, on allait ensemble au Green Spot. C'est pas de la bonne bouffe, le Green Spot, là. Maintenant, leurs hot dogs estimés sont bons, mais l'idée, c'est que si je mangeais au Green Spot tous les jours, là, mon cardiologue, il me connaîtrait très bien, que ce serait pas bon pour mon cholestérol. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est correct, des fois, tu peux manger un repas comme ça. En anglais, on appelle ça de la « comfort food », la nourriture qui te console. Mais tu as besoin de tes légumes, tu as besoin de tes protéines, tu as besoin de ta fibre, tu as besoin de bonne nourriture. Tu peux manger un smoked meat une fois de temps en temps ou un repas, quelle que soit votre nourriture que vous aimez juste pour le plaisir de la chose. Puis la même chose spirituellement, OK, tu peux aller entendre un message de motivation ou un message thématique qui frappe pour une raison X. Mais de jour en jour et de semaine en semaine, ce que tu as besoin, c'est le lait spirituel et pur. C'est pas toujours spectaculaire. C'est pas toujours divertissant. Mais c'est nutritionnel, c'est nutritif, par exemple. J'avais un prédicateur invité que j'aimais beaucoup entendre quand j'étais à l'école biblique. Il venait du Michigan. Puis c'est son style, la manière qu'il prêchait, son énergie, ses intonations de voix. Puis il était un maître dans l'art, si on peut appeler ça un art, d'aller dans des textes assez obscurs de l'Ancien Testament. Je n'oublierai jamais un message qu'il avait prêché. Il avait dit, le titre de son message, c'était « Aucun wagon, non, pour Kohath ». On était comme, quoi, de quoi qu'il va parler? Puis là, il s'en va dans le livre des Nombres, puis il trouve le passage où tous les princes d'Israël amènent des offrandes. Puis là, les trois familles de la tribu de Lévi arrivent. Et puis, tu avais la première famille, c'était la famille de Gershom, si ma mémoire est bonne. Puis ils prennent le deux tiers des chariots, puis des bœufs, pour transporter des choses du tabernacle. Là, la deuxième famille, la famille de Merari, ils arrivent et ils prennent le reste. Puis là, la troisième famille de Lévi arrive et il ne reste plus de bœufs, puis il ne reste plus de chariots du tout. Puis là, ils ont été obligés de porter les choses sur leurs épaules. Puis là, moi, j'entends, j'écoutais ce message, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Là, son application, c'était la famille de Kohath, qui n'ont pas eu de chariots et de bœufs, eux, ils devaient porter les choses les plus précieuses, comme l'arche de l'Alliance, puis le chandelier, puis tout ça. Puis, ils ne pouvaient pas le mettre dans des chariots parce que c'était trop précieux. Il fallait qu'ils le portent sur leurs épaules. Puis l'application qu'ils avaient faite, c'était que si Dieu ne t'a pas donné les mêmes avantages dans la vie qu'un autre, peut-être que c'est parce que Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Maintenant, juste alors qu'il prêchait le message, là, tu sentais comme il y avait une émotion. Puis honnêtement, les gens avaient juste hâte qu'ils disent « Amen » pour se précipiter en avant et prier. C'était le genre de message où Et là, nous, on avait commandé, ça, encore je me vieillis, là. On avait appelé à son église au Michigan. On avait commandé plein de ses cassettes. Oui, oui, des cassettes. De ses prédications. On commence à écouter ça. C'était plate. C'était juste comme ce soir, là. C'était juste des messages bibliques. Il n'y avait pas de... Quand je dis plate, je dis ça là, humoristiquement, entre guillemets. Là. Mais c'était pas comme il avait prêché à la conférence. C'était juste verset par verset. Côté divertissement, là, c'était zéro. Mais c'était la parole pure. Puis la parole... La parole spirituellement donnée. Pourquoi? Parce que oui, ce soir-là, il avait prêché un message, on peut dire, de motivation. Mais ce n'est pas ça que l'Église a besoin d'une semaine à l'autre. On a besoin du lait spirituel et pur. Il n'y a personne qui boit du lait dans le même sens que moi, je cherche un smoked meat. Okay? Mais c'est bon pour toi, pour le bébé. C'est bon pour que tu grandisses. On n'est pas là pour chercher le spectaculaire. Maintenant, je manque de temps ce soir, mais je... Ça dit « désirer comme des enfants nouveau-nés ». Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que la parole de Dieu demeure fraîche pour vous? Parce que si vous l'avez lu 20 fois la Bible dans votre vie, si vous avez entendu plus de, je ne sais pas moi, 2000, 5000 prédications dans votre vie, comment ferez-vous pour que ça demeure frais? Honnêtement, des fois, on peut changer la recette de notre culte personnel. Personnellement, moi, je change ma façon de faire mon culte personnel périodiquement, ou quelques années. Des fois, je vais prendre un seul livre de la Bible, puis je vais le relire et le relire, comme par immersion, qui appelle ça. Des fois, je vais prendre un passage biblique, puis je vais le prier. Je vais le prendre, je vais prendre lire le verset 1, je vais transformer ça en prière de mon cœur à Dieu. Puis prendre le passage, puis en faire un plan de prière pour... Des fois, on va faire un plan de lecture biblique à travers le Nouveau Testament, au travers la Bible, des fois autre chose. Mais de trouver une manière pour que ça demeure frais, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. J'espère qu'on désire la parole, puis qu'on s'en nourrit. Père Céleste, merci pour ce que tu nous donnes dans ta parole. Merci pour le fait que par elle, nous pouvons croître, nous pouvons grandir. Puis aide-nous à ne pas chercher ce qui est mélangé avec autre chose, des choses que le Saint-Esprit n'a point dites, mais aide-nous à demeurer fermes sur la simplicité, la clarté, la pureté de ta parole telle que tu nous l'as donnée, afin que nous puissions croître par elle. Je te prie dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.